C'est pourquoi
Je me tourne vers quelques paradoxes classiques de façon à essayer de restituer à l'aliénation tout à la fois sa possibilité et son caractère pathologique. Et puisque j'ai annoncé au début qu'il faut considérer les choses du point de vue de la rationalité, donc je vais considérer des paradoxes logiques. Alors je dis d'abord un mot du paradoxe du menteur, qui est bien connu, et je citerai l'étude d'Alexandre Coiré, Épiménide, le menteur, qui est un petit texte qui a été la source justement du thème de la division du sujet en sujet de l'énoncé et sujet de l'énonciation dans la philosophie et la psychanalyse française dans les années 60. Le fond de l'étude de Coiré, c'est l'idée suivante. Le paradoxe se présente sous deux formes. La première forme, c'est le syllogisme suivant. Je cite, « Tous les Crétois sont des menteurs, et Épiménide est un Crétois, et Épiménide est un menteur. » Alors, cette inférence, elle est valide, bien entendu. Coiré précise que ce qui nous intéresse, c'est pas mentir au sens moral, mais c'est mentir dans un sens qui veut dire ici purement dire faux. On peut remplacer « éventeur » par « dit faux ». Et devant ce paradoxe, tout ce qu'on peut dire, c'est que la majeure est fausse. Si, n'est-ce pas, les deux majeures, si nous posons les deux prémices, alors la majeure est fausse, car Épiménide ne peut pas dire « tous les Crétois sont menteurs ». Nous pouvons le dire, mais Épiménide, lui, ne peut pas le dire. Et, dit-il, donc, l'intérêt du paradoxe du menteur, c'est de faire apparaître que certains verbes, dit-il, ne peuvent pas s'employer à la première personne, mais seulement à la troisième personne. Alors, si nous voulions loger une aliénation dans le paradoxe du menteur, il faudrait que Épiménide dise, le syllogisme que je viens de citer, « Tous les Crétois sont menteurs, Épiménide est un Crétois, Épiménide est un menteur », d'une certaine façon, dans un état d'aliénation. Dans un état d'aliénation, dans un état grave d'aliénation, il ne suffirait pas que Épiménide ait oublié qu'il est Crétois, ayant oublié qu'il est Crétois, n'est-ce pas, il pourrait parler comme un Athénien. Or, les Athéniens, eux, peuvent énoncer le syllogisme que j'ai cité, puisque à ce moment-là, leur énonciation du syllogisme n'est pas mise en cause par le contenu de ce qu'ils disent. Mais si Épiménide avait oublié que ça s'applique à lui, il n'en aurait pas moins, il n'aurait pas pu pour autant suspendre l'application à lui-même du syllogisme, donc il ne suffit pas qu'il oublie. Il faudrait que d'une certaine façon, Épiménide ait réussi à cesser d'être crétois. Il faudrait non pas qu'il ait oublié qu'il était crétois, mais il faudrait qu'il ait réussi à oublier d'être crétois. Il faudrait qu'il puisse parler en nom crétois, qu'il puisse parler étranger à lui-même. Si maintenant nous mettons le paradoxe, je finis le commentaire de Coiré, si, dit Coiré, nous prenons le paradoxe dans sa forme pure, c'est-à-dire à la première personne, on n'a plus le syllogisme que j'ai cité, mais on a simplement la déclaration, l'assertion « je mens ». Et là, l'objection est que « je mens » ne dit rien, puisque il manque le mensonge. « Je mens, mais en disant quoi ?» Cette objection est juste, mais supposez que Épiménide ait dit « je suis menteur ». À ce moment-là, il aurait dit quelque chose. « Je suis menteur » parce qu'il y aurait un attribut. Et la réponse de Coiré, à savoir le verbe « je mens » ne peut pas s'employer à la première personne, ne vaudrait peut-être plus. Et c'est alors que se présente comme solution l'idée que je peux dire je suis menteur ou je mens à condition de parler du sujet dénoncé et de soustraire l'acte de le dire au contenu de ce que je dis, ce qui est immanquablement le cas, puisque nous pouvons dire effectivement je suis menteur. Je suis menteur montre bien, la possibilité de dire je suis menteur montre bien que, d'après cette analyse, que le discours qui m'attribue le mensonge porte sur le sujet dénoncé et que nécessairement l'acte de le dire ne peut pas s'appliquer à lui-même ce qui est dit du sujet dénoncé. Telle est, telle que je la comprends, n'est-ce pas, la thèse d'une division structurale en quelque sorte de l'être parlant en un sujet de l'énoncé dont on parle et un sujet de l'énonciation qui est le sujet qui parle.